deux ateliers pour mettre en scène et leurs paroles et les paroles des gens, voilà. Il y avait des slameurs, des danseurs, des comédiens, et aussi ce fameux texte de Albert Londres,
Ah oui.
Terre d'ébène. Et il
Adieu, maman. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi d'être parti sans te prévenir. Pardonne-moi de t'avoir embarrassé. Pardonne-moi d'avoir été trop subtil, d'être parti comme un voleur, car je fuyais la terreur. Aujourd'hui, assis sur une natte au fond de la cour sur le sable où je jouais, larmes aux yeux, je sais que tu penses à moi qui suis ton fils unique, maman. Tu diras à nos voisines, mon fils est parti loin d'ici, loin de toutes ces hostilités. Il aura la vie sauve, il aura un avenir meilleur et me reviendra avec un grand sourire. Ce sera le sourire de la victoire, ce sera le sourire de la liberté. Mais non, maman. Ce serait une erreur de ta part, car à présent, je ne suis qu'un fantôme qui vit dans l'eau. Oui, j'ai péri, maman. J'ai péri au plus profond de nulle part, et mon cœur s'est éteint dans l'immense bleu. Mon corps n'est plus rien qu'un simple appât qui, dans l'eau, nourrira ses poissons. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Moi qui croyais revoir un jour ton sourire, réentendre ta voix qui m'appelait toujours dans la cuisine. Mais hélas, maman, la mer m'a surpris. Non, je ne saurais nager car je n'ai connu que le désert. Aujourd'hui, j'ai péri comme tant d'autres que moi. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Je ne connaîtrai pas de victoire. Je ne connaîtrai pas de liberté. Et j'en reviendrai plus jamais. Et tu ne t'en rendras compte qu'avec les temps d'années qui couleront, tu diras à nos voisines, mon fils est parti depuis très longtemps, je n'ai plus de ses nouvelles. Ton cœur te dira, mon fils a peut-être péri. Cette fois-ci, tu auras raison, maman. Ah oui, maman, ton fils n'a pas su comment nager et a péri comme tant d'autres que lui. Tu le sauras dans longtemps, tu ne l'avoueras à personne. Tu pleureras toutes tes nuits, tu pleureras tous tes jours. Tu croiras enfin ton cœur qui avait toujours raison. Et ta vie ne sera que tristesse. Tu mourras de détresse. Adieu, ma pauvre maman. Moi qui n'ai pas eu le temps de comprendre que le destin, ce n'est pas l'homme qui le choisit, mais plutôt la vie qui le lui offre. Car ma liberté m'a coûté plus cher que ma vie. Je n'ai rien eu d'autre à donner que mon âme. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Adieu, ma pauvre vie.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Gédine Noir qui commence et vous venez d'entendre notre invité, Mohamed Nourwana, qui lit le poème qui ouvre son livre, « Mon nom est Mohamed », édité par les éditions de l'Institut du Tout Monde. Et donc c'est un livre qui nous a frappé, hein, José, Jean-Mathias et moi, par sa véracité et son, comment dire... son ton sans phare, mais sans non plus, enfin, juste, quoi, un ton juste, ce qui est toujours très difficile à trouver. Et là, vous venez donc d'entendre le poème qui ouvre le livre, où justement notre invité Mohamed raconte en partie son histoire, mais pas seulement son histoire. On en reparlera de toute façon. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est aussi l'histoire. Nombreuses personnes qui tentent de traverser la Méditerranée très souvent parce qu'elles n'ont pas le choix et non pas parce qu'elles le souhaitent, non pas par caprice, non pas pour essayer de voler les richesses volées de l'Occident, mais juste parce que ben c'est ça ou mourir. On est très très heureux d'accueillir ce soir avec nous Mohamed et on va passer l'émission à présenter son livre. Mon nom est Mohamed.
Alors juste rapidement avant de te donner la parole Mohamed, c'est comme vient de le dire Michel, c'est un livre qui est exceptionnel, il faut dire. On est non seulement très content, mais on est honoré de t'avoir à l'antenne ce soir parce que c'est un récit assez rare finalement, autobiographique, c'est-à-dire que tu racontes ton histoire. Et comme l'a dit Michel, il y a d'abord cette histoire qui est elle-même complètement extraordinaire et qui permet de comprendre ce que ça signifie. Et ce qu'on peut mettre derrière ce mot un petit peu fourre-tout et un peu valise de migrant, qu'on utilise beaucoup en France, dans les médias, dans les débats publics. Et là, en fait, toi, tu racontes ce que c'est que cette ta vie. Et ce que c'est, alors, une vie de migrant, comme le dit Michel, tu vas nous en dire aussi quelques mots, c'est ton histoire, et le titre, il dit ça, c'est-à-dire mon nom est Mohamed, c'est aussi une manière, effectivement, de dire, c'est moi qui parle là, c'est une manière aussi de retrouver ce nom-là, de pouvoir l'affirmer, de pouvoir l'écrire, de pouvoir le dire publiquement. Dans ce livre, en fait, l'histoire est assez ahurissante, en fait, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que tu as 36 ans, si je me trompe pas. 32. Alors, tu vois, 32, voilà, 32 ans. Je t'ai rajouté 4 ans là pour le même prix. Et à 32 ans, en fait, tu as connu 3 guerres civiles. Tu as été réduit en esclavage. Tu as été torturé. Tu as traversé la Méditerranée sur un canot qui a fait naufrage. Tu as vu des gens mourir sous tes yeux, notamment lors de ce naufrage-là. Tu as été sauvé in extremis par un bateau italien. Tu as traversé la frontière italienne pour arriver en France. Tu es arrivé à Paris, tu as vécu dans un bidonville, Porte de la Chapelle, pendant plusieurs mois. Et tu as trouvé l'énergie, je dirais, le courage, la dignité aussi de décrire ça. Voilà. Je le dis quand même en début d'émission pour qu'en fait les auditeurs mesurent ce qu'ils vont lire dans ce texte. J'espère qu'ils le liront parce que ça fait partie des récits, d'une espèce de comète qu'on peut pas oublier. Il y a le style aussi, effectivement, on en parlera. Il y a pas de pathos, il y a pas de lamento là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait tu racontes une espèce de ligne claire, dans ton écriture. Il y a le récit qui est construit de manière remarquable aussi. Ça, on en parlera. Je veux dire, il y a des poèmes dans ce texte-là. Peut-être juste pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé cette affaire d'écriture de ce livre-là? C'est-à-dire quand tu arrives à Paris, donc tu arrives Porte de la Chapelle comme beaucoup de gens, ou tu nous préciseras ça. Comment t'as trouvé effectivement cette énergie-là et le temps pour écrire? Le récit, les poèmes, est-ce que t'as toujours fait ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu à ce moment-là? Dans quelles circonstances ça s'est passé? En fait, il y a un mystère qui, moi, me fascine. En fait, rien que le fait que ce livre existe, ça me fascine. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et merci d'abord à vous de m'accueillir ce soir pour cette émission et de me donner la parole pour parler de mon histoire et celle des autres, surtout aussi celles qui n'ont pas pu être là où je suis aujourd'hui. J'ai toujours une pensée à ceux-là qui ont sombré dans le naufrage, ceux-là qui ont fui la même chose que moi j'ai fui et qui n'ont pas eu assez de chance que moi. Voilà. Alors, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, mais différemment. différemment. En Libye, quand j'étais en Libye, bon, j'ai écrit, j'ai aidé aussi des enfants francophones à apprendre bon, l'alphabet, la lecture, l'écriture, mais autrement, pas dans le but de définir ou de, d'en faire un livre. Et j'arrive ici en 2016, c'était la crise migratoire, il y en avait des milliers, des centaines, je ne sais pas combien de personnes on était, à Stalingrad et à Porte de la Chapelle. Et j'entendais beaucoup de choses parce que j'étais déjà francophone. Donc,
tu es né au Darfour, hein,
oui.
On dit, né au Darfour, oui.
Et voilà. D'un côté, je suis francophone, d'un côté arabophone, donc je connaissais un peu comment ça se passait ici et qu'est-ce que les gens disent sur les médias. Bon, je lisais, je voyais un peu et puis le regard des gens sur nous qui nous définissaient parfois verbalement comme des envahisseurs. J'ai entendu des gens dire ça y est, ils nous envahissent. Ça aussi, j'ai entendu, mais j'avais mal parce que le fait d'avoir vécu la guerre, il faut vivre la guerre.
Les guerres,
oui, bien sûr. J'ai connu des guerres ethniques, j'ai connu des guerres politiques. Et c'est vraiment quelque chose de très... je ne le souhaite pas à quelqu'un de connaître la guerre et de fuir et de partir, abandonner ses amis, sa famille et tout ça. Et j'avais fait des interviews pour parler de nous avec... parfois c'est, je sais pas, c'est des radios ou parfois c'est des chaînes de télé pour raconter un peu l'histoire de ce qui se passait en Libye. Mais ça ne donnait pas grand-chose parce que un réfugié qui accuse toute une nation de pratiquer l'esclavage, c'était peut-être incroyable, je dirais.
Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'incroyable.
Donc. Et les poèmes, j'ai commencé d'abord par écrire les poèmes parce que je trouvais que c'était un moyen de dire ce que je ressentais. Si par exemple je pense à la traversée du désert, donc pour le décrire, je peux le faire sortir en poème et puis le garder pour moi. Hein. À l'époque, je n'avais pas en tête l'idée d'en faire bon, un livre ou un recueil de poèmes. Écrire le livre m'est venu parce que j'ai, quand je suis arrivé, j'ai vu ce qui s'est passé à Porte de la Chapelle. Les gens dormirent à même le sol. Les gens passaient toute la journée jusqu'à 17h à attendre un morceau de sandwich. Les gens attendent 2 à 3 jours pour trouver une douche, pour se doucher ou pour voir un médecin. Et c'était difficile. Alors qu'à côté, on parle de Paris, on parle de... d'un pays où il y a le roi de l'homme. Nous avons traversé la Méditerranée pour chercher avant tout la sécurité. Toutes ces personnes qui ont traversé avec moi, il y avait des médecins, il y avait des personnes qui étaient juristes, il y avait des personnes... Chacun avait une vie. Et arriver ici, être réduit à la mendicité, c'était quand même quelque chose. Parce que le côté de la guerre et de l'esclavage, la persécution, quand on est persécuté en Libye juste parce qu'on est noir, ou quand on est persécuté dans son propre pays juste parce qu'on n'appartient pas, on n'est pas de la bonne ethnie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Et quand on part, par exemple, on arrive en Libye, bon, on est étranger dans un deuxième pays qui sombre dans la guerre, qui se déchire. La seule chose, c'est de trouver un autre endroit. Cet autre endroit, ce sera jamais là où nous avons fui parce que on n'a pas de passé, on n'a que l'avenir à espérer. Donc la traversée, la Méditerranée, ça fait peur. Mais quand même, il y a l'espoir qui te dit que bon, où que tu ailles, ce sera mieux que là où tu es, là actuellement. Et tous ces problèmes-là, les gens, ils ne comprenaient pas. Et personne d'autre n'écrivait. Donc le fait de discuter avec les médias, c'était pas suffisant. On pouvait pas tout dire. Tout ce que j'ai dit dans un livre, il me faut peut-être, je ne sais pas combien d'émissions radio pour raconter tout ça. Encore, qui va m'écouter?
Je précise juste, en fait, le livre, il fait, alors parce que il fait 200 pages.
Ouais.
En fait, je trouve ça aussi stupéfiant que tu aies réussi à raconter tout ça en 200 pages. Voilà, il faut le dire. Voilà, le Darfour, le Tchad, la Libye, la Méditerranée, l'arrivée à Paris, tout ça en 200 pages. Alors effectivement, ça fait beaucoup d'émissions de radio, mais en tout cas, en termes d'écriture, je le dis pour les auditeurs, parce que c'est, voilà, c'est assez incroyable aussi, ça, cette espèce de concision, de précision que tu as pour raconter ça. Mais je t'ai coupé et tu nous disais effectivement comment t'es.
Et donc, l'idée m'est venue d'écrire parce que j'ai écrit « Adieu, maman ». Le poème que vous venez d'entendre, je l'ai écrit parce que c'était une voix qui me hantait en pleine nuit à chaque fois. Je l'ai écrit pour un ami. Beaucoup d'autres, on peut penser que c'est moi, mais c'est un ami qui était avec moi, avec qui on a partagé beaucoup de choses et qui voulait partir. Et en partant de chez lui, dans son pays, il est parti comme un voleur, parce que dire à sa mère, à sa famille, parfois, je pars, c'est insupportable. Donc c'est douloureux. Ils savent que les gens qui partent, il y en a très peu qui reviennent. Ils savent que la traversée du désert, c'est aussi risqué que la traversée de la Méditerranée.
Il y a un poème dans ton livre sur la traversée du désert aussi
qui parle des mots du désert.
Ouais.
Donc cet ami-là me dit, bon voilà, je suis parti moi de chez moi, je n'ai pas dit au revoir à ma famille ni à ma mère. Et là, bientôt, je traverse la Méditerranée. Donc je te dis, si jamais je ne donne pas des nouvelles, tu diras à ma famille ce qui s'est passé. Il est parti, il n'a jamais donné de nouvelles. Aujourd'hui, ça fait des années. Et donc, quand moi j'ai traversé et que je suis arrivé ici dans le 77, il y avait cette responsabilité-là, il y avait sa voix qui m'a hanté et qui me disait, toi, tu es là aujourd'hui, moi, je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu as annoncé la nouvelle à ma famille? Donc, j'avais ce message d'adieu qu'il fallait que j'écrive. Donc j'ai écrit, et en écrivant, j'ai essayé de décrire un peu et les conséquences et aussi les conditions et aussi les problèmes qui l'ont poussé à vraiment choisir cette traversée-là. Donc, ainsi de suite, j'en ai écrit d'autres poèmes. Tout ce que j'écris, tout est noir. D'ailleurs, je décris ça, mes poèmes, je surnomme ça la poésie noire, parce que je parle que du côté un peu obscur que les gens n'abordent pas facilement. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre pour me décrire moi-même. En me décrivant, je suis aussi en train de décrire l'autre qui a la même histoire que moi. En décrivant l'autre, je peux décrire aussi toute une communauté, toute une famille, tout un groupe de personnes qui ont sombré soit dans l'esclavage en Libye, soit dans la traversée de la Méditerranée, soit dans les conflits interethniques au Darfour, soit dans les guerres politiques au Tchad ou en Libye. Et tout cela font aussi mon identité. Je suis Mohamed, évidemment. Bon, Mohamed, le prénom le plus donné au monde, c'est Mohamed-là que tout le monde le plus souvent prétend connaître, sans connaître son histoire. Quand on dit Mohamed, ah, il est musulman, il mange halal, il a 2-3 femmes, ou il est ceci, il est cela. Mais moi, je suis l'autre Mohamed. Je suis l'autre Mohamed qui a vécu, voilà, cette histoire, qui a connu plusieurs identités, plusieurs langues, et puis qui est venu ici, qui a demandé l'asile, et qui aujourd'hui essaye de donner la voix à ceux qu'on n'a pas vraiment, je dirais, la chance d'écouter parce qu'ils ont la barrière de la langue. Donc quand je parle souvent, je ne parle pas seulement au nom de Dieu, mais je parle au nom de toutes ces personnes-là pour qui je suis la voix. Dans un de mes poèmes, je dis « je suis la voix sans papier qui parle à la place de l'autre sans papier » parce que je suis une personne, j'ai été une personne sans papier. Mais quand je parle français, je ne dois pas seulement parler pour moi. Je dois parler pour l'autre qui est aussi un ami, un compatriote, un réfugié, un exilé, un sans-papier, qui a des choses à dire, mais qui a cette barrière de la langue. Donc si je parle, je ne parle pas seulement de mes problèmes, mais je parle aussi de problèmes de l'autre. Donc, et ainsi de suite, j'ai posé des mots et les pages sont sorties. C'était, je dirais que émotionnellement, ce n'était pas facile. C'est comme si je m'étalais moi-même. Mais au niveau de l'écriture, ça allait parce que c'est mon histoire, c'est moi. Je me racontais et j'ai raconté tout mon parcours et celle des personnes que j'ai rencontrées. Et de là est né mon nom et Mohamed, cette personne qui est aujourd'hui dans ce livre.
Et ça donne un très, très grand récit. parce qu'effectivement, il y a les poèmes dont tu parles, qui viennent en fait scander un petit peu hein, le récit. Et puis, il y a le récit lui-même. Alors, rapidement, c'est une chronologie un peu à la hache. Hein. Tu me coupes si je me trompe. Donc, toi, t'es né en 92 au Darfour. Donc, effectivement, 92-2024, ça fait 32. et pas 36.
Je fais peut-être...
voilà.
Jean-Baptiste, ça prend à compter.
Ouais, j'y travaille. Donc, 92, tu es né au Darfour. Tu grandis quelques années là-bas, 5 ans, pour être exact. Et puis, guerre au Darfour. Massacre que tu subis au village des proches, donc tu es obligé de fuir. T'as 5 ans, donc c'est pas un choix, là, évidemment. T'es contraint à la fuite dès ta cinquième année. Tu vas ensuite t'installer donc en 97 sur les bords du lac Tchad. Hein. Donc là, t'es une enfance, une deuxième partie d'enfance, plutôt heureuse, hein, que tu racontes, effectivement, en décrivant la vie sur les bords du lac, les joies, les baignades, les rires, la lumière, les partages avec, voilà, les amis, les jeux, il y a tout ça, effectivement, qui est raconté. Et puis, de nouveau la guerre. Donc Boko Haram, à ce moment-là, effectivement, qui reflue et qui vous contraint, qui te contraint de nouveau, ta mère et toi notamment, à quitter en fait les bords du lac Tchad et à vous enfuir avec cette première traversée du désert, pour le coup, que tu racontes. Alors il y a un poème qui raconte ça, qui est ahurissant aussi. Voilà, avec un chauffeur complètement ivre, au milieu d'une espèce d'étendue désertique, tous les recroquevillés les uns sur les autres, avec un vague espoir d'arriver quelque part à un moment. Et tu arrives en Libye en 2017. En 2007. Donc en 2007, eh bien, si je compte bien, donc tu as une quinzaine d'années. Donc là, tu vis à Saba, c'est ça?
Saba, dans le sud
de la Libye. Et tu racontes aussi la Libye de 2007 à 2010, c'est-à-dire une Libye où, ben, en fait, tant bien que mal, t'essayes de commencer à construire une vie. Hein, t'es un jeune adulte à l'époque. Donc tu décris un pays, où effectivement tu sens effectivement un racisme qui est ancien, qui est profond, des communautés aussi qui sont là, qui se regardent un peu. Mais ça tient, et d'une certaine manière, c'est vivable. Et puis ensuite, il y a la révolution en Libye, la guerre en Libye, la chute de Kadhafi. Et là, tu vis un autre type de guerre, c'est-à-dire que tu avais connu déjà deux guerres ethnico-religieuses, on va dire. Et tu vas vivre un épisode de guerre civile. C'est la traque, c'est la peur, c'est les communautés qui s'affrontent, c'est les gens qui disparaissent. Progressivement, sans que on sache exactement ce qu'ils deviennent. Il y a des gens qui disparaissent, voilà, des proches, des clients, des amis, des voisins, noirs pour la plupart, noirs de peau comme toi. Et toi-même, eh ben, il y a un moment où, effectivement, tu vas être capturé par des kidnappeurs. Et là, tu décris cette découverte de la mise en esclavage. Des pages qui sont ahurissantes, là aussi. Tu parlais d'incroyable tout à l'heure, effectivement, mais il y a quelque chose, effectivement, de...
Oui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le côté présent. C'est-à-dire que dans nos têtes à nous, ici en France, bien à l'abri, l'esclavage, ça appartient au passé. Et tout d'un coup, il y a un texte, quelqu'un qui nous raconte l'esclavage au présent.
Et qui nous raconte exactement la même chose.
Et qui nous raconte exactement la même chose que d'autres esclaves ont pu raconter, les rares esclaves qu'on a pu raconter auparavant. Et ce côté présent est juste, on se dit, et avec le côté, tu vois, en France, on était informés, on savait qu'il y a eu de l'esclavage en Libye, ou qu'il y en a encore, je sais pas s'il y en a encore. Et tout d'un coup, le côté, ça c'est des récits des journaux. Et le récit de quelqu'un, ça change absolument tout. Avec le côté présent, juste, il y a des gens qui te kidnappent, qui te réduisent en esclavage et qui disent, maintenant t'es à moi, tu vas me rapporter de l'argent. Et c'est juste insupportable.
Tu retrouves aussi des gens, des disparus, et c'est là qu'effectivement, tu comprends aussi ce qui était en train de se passer, ce qui se passait, ce qui se passe. Donc cet épisode-là, il est aussi effectivement. Donc tu deviens interprète aussi, parce que tu étais polyglotte, tu parles de nombreuses langues, tu t'évades. t'évades, tu organises une évasion, même collective, voilà, donc il y a une grande évasion. Tu te planques un moment en Libye, et après, évidemment, bah, tu n'as plus qu'une seule pensée en tête, c'est quitter terre d'esclavage-là. Et donc, bah, tu vas tenter la traversée. Alors, du coup, c'est en quelle année tu quittes la Libye?
La traversée, c'était en 2016.
2016.
C'est pas si 2016. Long que ça.
Oui, ouais. c'est 2016, voilà. Donc, effectivement, il y a 8 ans. Le bateau fait naufrage. Donc, t'es recueilli, toi, in extremis, par les patrouilleurs italiens. Et donc, après, je l'ai dit, t'arrives effectivement dans la foulée à Paris, en France. Et tu as un peu commencé à raconter comment se passent ces conditions d'accueil ici. Donc ouais. Ça, c'est pour le scénario, je dirais. J'ai envie de parler de scénario parce qu'il y a effectivement ce déroulé là.
Ouais.
Donc, autre point fort, je trouve, et autre point remarquable, c'est ton texte. Donc, il a cette chronologie. Il est pas chronologique. C'est-à-dire qu'on en reparlera tout à l'heure. Tu fais des flashbacks. Tu reconstruis un petit peu de manière très efficace, je trouve. Et l'autre point, et avant qu'on fasse juste une pause, c'est les personnages. En fait, c'est aussi un récit dans lequel tu vas présenter, tu disais tout à l'heure, c'est jeu, mais
ouais,
c'est nous.
Ouais.
Et effectivement, il y a une galerie de personnages au fur et à mesure de ce qui t'arrive, que tu rencontres, à qui tu donnes la parole et qui est époustouflant. Voilà, donc pour une présentation rapide de ce à quoi ressemble en fait le récit. Mon nom est Mohamed Nourouana, aux éditions du Tout Monde. On va faire une première pause musicale. Et puis on reprend juste après.
Chengtiene taban denga yen chenya rob denga chenya toy denga mashiaro pala kanta ojanan biay dana ye malon ya tan kon yen biya kon tan mishkel na yen gar femi wana kujuba wana nigar linga malare mente ko konder dan falfin andora ne jin nyua jin nuora jin nuba jin bini nika ko lam ne jikel pala dan fenyente chuja banu dan na kaband doran te liya te kwaran wande lu dan falfin kene ne tenanga kuntadi yui monge no ko tenere linga koner yang ko je kon for the long tan atang wan ko kon kene tin chak lu pal na dan fin chu jaba na dan na gar ye na ye na lare mo atung no ko مشاكلنا كل الليلة يا ناس كده نفكر سوا كيف يا بكل لو قعدنا سوا ما في مشاكل بس كله قاعدين سوا زي وطن واحد زي بلد واحد او يا 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 قاري ثونا نقار مونتا لوينا كونتا نلارا كونا ثو مشان يلينا تا مشاكيو نلويني كون ديني ناية ثو قاري اندوران ويدان مي كودا كام كون يا كون تل يا كون كام تنوان قاري ngodina la olim ne xian wa yuan te gar kam go mo ke lo ka me kon ku de kon fu dora ngun yan rial ka banana la lo ka ki ne men che kon chu ta
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, 89.4. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa seconde partie avec notre invité Mohamed Nourouana pour son livre Mon nom est Mohamed, paru aux éditions de l'Institut Tout Monde. Et donc on a présenté un petit peu avec Mohamed en première partie l'origine du livre et puis son contenu. Et maintenant Mohamed va nous lire un des poèmes qui scande le livre, auquel on a fait allusion, et c'est sur la traversée du désert.
Les mots du désert. Corps côte à côte, tête pensante ailleurs. S'entasser à l'arrière du camion, pas de regret, beaucoup de peur. Sous le soleil chaud brûlant, rester coincé pendant des heures. Ne pas trop bouger au moindre chaos. Faire confiance à sa place. S'agripper très fort pour ne pas tomber. Escale, descendre. Chercher son sac et repérer quelques bois morts qui traînent par terre. Les ramasser. Il fait nuit. Il fait noir, il fait très froid. Allumer le feu, se réchauffer. Manger dattes et ses petites arachides. Boire du thé préparé au petit feu. Attention, une alerte du passeur. Il tient une kalachnikov et donne des ordres. Obéir sans plus tarder. Maintenant, éteindre les petits feux qui nous réchauffent, se recroqueviller. Dormir sans murmurer entre amis. Il fait jour, mais toujours froid. Se réveiller, muscles tendus, yeux collés. Ouvrir la bouche, bâiller. Dégager cette haleine de chacal. Aux ordres. Exécution encore. Monter sans plus tarder. Corps côte à côte. Tête pensante ailleurs. Entassé à l'arrière du camion, le soleil se montre. Il démarre le moteur. Et nous bougeons, chauffeur drogué, à l'aise au volant. Il roule vite comme sur un goudron, laissant poussière derrière, nous l'aspirons. Corps côte à côte, tête pensante ailleurs. C'est ainsi que nous partîmes pour ces ailleurs, coûte que coûte, en plein désert.
Ça, c'est le texte, du coup, que tu utilises pour raconter, en partie, cette traversée du désert, donc après la deuxième guerre civile subie par toi et ta famille, et évidemment aussi tous les gens qui vivaient avec vous, autour de vous. Ouais. C'est le moment où tu pars du Tchad et où tu vas vers la Libye refuge en Libye.
Ouais. Voilà. Tout d'abord, le lac Tchad, à l'époque, c'était, je pense que... je l'ai toujours dit, hein, quelque part dans le livre, que le bonheur, je pense que je l'ai connu autour du lac Tchad, parce que c'était l'enfance, c'était la chasse aux oiseaux, c'était la pêche. Je racontais comment j'ai nagé avec des petits poissons, et puis on n'entendait pas de violence verbale ou physique, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Et quand Boko Haram a envahi le lac, et que l'identité de chaque personne était demandée par les autorités, c'est-à-dire toute personne étrangère qui louait une maison devrait être une personne tchadienne. Au cas contraire, il faut l'expulser, ou si un bailleur essaie de cacher l'identité d'une personne qui n'est pas tchadienne, cette personne-là a une lourde amende. Donc les personnes qui étaient originaires des pays voisins étaient soit renvoyés chez eux, et les miens, ils n'avaient pas un endroit où aller. Donc, rentrer au Darfour, c'était retourner à la guerre qu'ils ont fui il y a plus de 10 ans.
Vous étiez déjà réfugié.
Oui, oui. Donc, la seule chose qui restait, c'était, il faut tenter une chance, traverser le désert, aller voir qu'est-ce qui se passe en Libye. Il paraît que bon, il y a du travail, c'est calme, et les gens parlent arabe là-bas. Donc, c'était facile. Au lieu d'aller peut-être au Nigeria où la guerre, Boko Haram, existait déjà, ou dans un autre pays qui est francophone, où on ne connaissait pas un peu les cultures, c'est-à-dire le Tchad et le Soudan. Bon, c'est la même langue, c'est la même cuisine. C'est la même religion, la Libye aussi, mais aller peut-être vers le Congo, où je sais pas, c'est ce réchauffement enfermé où il faut apprendre encore tout. Donc, la traversée du désert telle que je la raconte, c'est des passeurs avec des camions où ils roulent parfois très vite, parfois ils n'ont pas de boussole. Donc, on est serré comme des sardines. Hein. Il faut faire confiance à sa place. Il faut respirer la poussière du sable dans les yeux. Il faut attendre que le chauffeur y descende avec des kalachnikovs. Il vous donne des ordres. Il faut aller aux toilettes. Donc il faut allumer le feu, préparer un petit feu, se réchauffer, manger des petits trucs. Remonter et partir, c'était difficile. C'était difficile parce que c'est déjà arrivé que les gens se perdent ou il y a eu déjà des pannes et que des gens sont partis dans le désert, on ne les a jamais retrouvés. Mais bon, nous, on a eu la chance d'arriver en Libye, à l'époque Libye de Gaddafi, où c'était calme. Bon, il y avait du racisme, ça existait. Il y avait une présence de la police. Et les étrangers pouvaient travailler sans papier. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir ces papiers en Libye pour travailler. Et c'était bien payé. C'était des travaux journaliers dans des champs ou dans des constructions de bâtiments.
Tu le dis, quand vous arrivez, la Libye, c'est un pays riche. Il y a du travail.
C'est un pays riche. Et la paix. Ça m'a même étonné parce que je n'avais jamais vu un Congolais, un Ivoirien, un Malien, un Sénégalais, un Somalien. J'ai retrouvé toute l'Afrique, je peux dire. J'ai retrouvé, à part les Africains du Sud, toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, et même du Nord, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, tout le monde était là. C'était incroyable parce que je ne m'attendais pas à rencontrer tant de monde. Et ces personnes-là, quand je partais, j'étais vraiment triste. Je me disais, bon, je ne verrai pas d'autres Africains, alors qu'il y en avait plus en Libye. Et j'arrive, je fais une rencontre de beaucoup d'Africains francophones. Et comme j'étais arabophone, j'ai commencé à travailler tout de suite dans l'interprétariat et puis dans le taxiphone. Et avant le printemps arabe de 2011, la vie était calme, la vie était bien, tout le monde travaillait. Donc la guerre a déclenché ce qu'on peut dire une chasse à l'homme ou une chasse à ce qu'on appelle, je sais pas, esclaves, des personnes de couleur de peau noire, des Africains qui étaient kidnappés juste parce qu'ils étaient des Africains. Des femmes étaient kidnappées juste parce que c'était des femmes. Et des personnes que je connaissais ont commencé à disparaître. Donc, la chute de Gaddafi, c'était... ça a été terrible, et pour les Libyens, et encore plus pour des personnes africaines, parce que ça a favorisé d'abord la vente des armes à feu, qui circulaient un peu partout. Donc le pays s'est transformé très vite, comme nous on dit la Colombie, parce que quand on était petit, on voyait la guerre que dans des films colombiens.
Quand tu dis très vite, c'est quoi? C'est quelques semaines, quelques mois?
Ah, quelques semaines.
Quelques semaines.
Ouais. En quelques semaines, moi, quand j'ai entendu des coups de feu, je me suis dit, bon, ça va passer parce que, quand même, en Libye, il y avait beaucoup de policiers et de militaires. Le service militaire était obligatoire. Donc, je me suis dit, la population civile n'a aucune chance de renverser Gaddafi comme ils l'ont fait avec le président tunisien et dans d'autres pays. Mais quand ils se sont mis à attaquer des commissariats de police, des bases militaires, et que le gouvernement perdait du territoire, les commissariats étaient incendiés, les bases militaires étaient attaquées par des civils, les armes à feu, on voit des boutiquiers qui étaient postés devant leur boutique avec des kalachnikovs, des jeunes adolescents qui ont 15 ans, 13 ans qui se baladent avec des kalachnikovs. Ça a commencé à faire peur. Et donc, après la chute de Gaddafi, la vie était tellement difficile que les gens ont trouvé un autre moyen de se faire facilement de l'argent, c'est-à-dire les Africains. Il faut en kidnapper un pour avoir tout de suite 1 000 $. Donc, en kidnapper 100, c'était facile. En une journée, attraper 100 Africains pour des personnes armées, c'était vraiment facile. Donc, ils ont bien calculé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'Africains qui étaient coincés en Libye. Il était impossible de sortir de Saba, la ville où j'étais dans le sud, parce que les conflits étaient à l'extérieur, dans le désert, et puis il n'y avait pas de circulation. Il n'y a que des véhicules militaires qui circulaient. Toute autre voiture était, attaquée par des mitraillettes, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou des lance-roquettes parfois. Donc, tout le monde était coincé. Et moi, je travaillais dans un taxiphone où les gens ils venaient de temps en temps appeler le pays ou déposer un peu d'argent qu'ils ont ou des objets de valeur. Et ces personnes ont commencé à disparaître. Donc, j'ai entendu parler de l'esclavage. Il y en a qui m'ont dit que, bon, voilà, tu parles arabe, tu peux essayer de discuter avec ce monsieur qui retient mon cousin ou mon frère ou quelqu'un de ma famille et qui réclame de l'argent. Sinon, il va le torturer ou l'abattre. J'ai fait cette traduction-là. Je ne m'attendais pas à être à la place de la personne pour qui j'ai accusé. Et ça continuait jusqu'au jour où c'était pratiquement impossible de voir un Africain dehors, à moins qu'il ne soit libyen, ou à moins qu'il ne soit accompagné d'une personne libyenne, un militaire ou quelqu'un qui le protège. Et comme il se faisait rare dehors, ils défonçaient des portes pour entrer dans des foyers maliens, sénégalais, c'est-à-dire les Africains de l'Ouest, le plus souvent Mali, Sénégal, Gambie, Burkina Faso, c'est un immeuble où ils sont tous là-dedans, et ils défonçaient la porte, ils prenaient tout le monde et ils demandaient à ces personnes-là de payer $1,000. Et parfois, quand ils parlent en arabe, c'était difficile la communication. Donc, il y a des gens qui venaient me voir, et quand je discute avec l'autre personne, ils exigeaient cette somme-là. Soit la personne est torturée, parfois la personne est torturée, on l'entend au téléphone. Et ça faisait peur, bien sûr. Mais moi, je ne m'attendais pas à vivre ça. Donc, je me suis dit, bon, peut-être c'est la police qui essaie un peu de profiter de la misère des autres. Alors que non, c'était la chute, c'était le pays qui s'est déchiré.
Et t'étais pas au bout. En vivant ça, on va faire une deuxième pause musicale avant de la troisième partie de l'émission.
زي العشرة والشجر قلب جذب ماشين سوا نفتش مطر وين يا وطن وين يا زمن قضبان من سنين تتمطر
Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. La fois précédente, j'ai pas mentionné le morceau qui avait été pourtant sélectionné avec soin par José. Vous avez entendu Emmanuel Jal et Abdel Gadir Salim, deux artistes activistes politiques et qui se sont exilés au Canada, aux États-Unis, venant du Soudan, c'est ça, José?
Pour Emmanuel
Jal, oui. Ouais, pour Emmanuel Jal, oui. Et là, vous venez d'entendre Al-Sara and New Buttons, Yawa Watan. Et ça, elle, c'est une chanteuse américano-soudanaise dont la famille a fui le Soudan en 1989, quand elle avait 7 ans, vers le Yémen. Donc, dans la deuxième partie de l'émission, donc consacrée au livre de Mohamed Nourouana, Mon nom est Mohamed, édité aux éditions de l'Institut du Tout le Monde. Donc, Mohamed nous a décrit, un peu l'exil depuis le Tchad et puis la vie en Libye jusqu'à la chute de Gaddafi qui a fait sombrer le pays dans la guerre civile et dans l'insécurité pour presque tous ses habitants et en particulier ses habitants noirs qui se sont retrouvés complètement exposés à un racisme qui était préexistant mais qui là n'avait plus aucune limite et qui a abouti à la réduction d'esclavage de toute une partie de la population qui vivait en Libye.
Ouais, moi, j'avais une question là-dessus, parce qu'en fait, tu le suggères comme ça dans le livre. Comment tu expliques ça, toi? C'est le fait qu'effectivement, qu'il y a guerre civile. Donc, une guerre civile, c'est toujours atroce. Et ça l'a été. Et tu l'as vécu et tu nous en parlais. On monte encore à un degré dans l'horreur avec ce rétablissement de l'esclavage. Et comme le disait Michel au début de l'émission, ce que tu racontes, ce que tu décris quand tu es toi-même capturé et quand tu vas découvrir effectivement ces espèces de locaux où les gens s'entassent sans toilettes, sans nourriture, sans accès à l'eau, où les femmes sont réduites à la prostitution, violées systématiquement plusieurs fois par jour, etc. Les pages que tu ce que tu racontes, effectivement, ça réactive tout de suite. En fait, ce que les récits de l'esclavage, mais d'il y a 3 siècles, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans la cale. On est dans la cale des bateaux négriers. On est, et on est en 2000 à l'époque, en 2012, en 2013, et c'est la même chose. Comment tu expliques ça que en Libye, cette guerre civile te réactive en fait ça et si tu peux nous en dire aussi, enfin raconter en quelques mots si c'est possible cette expérience-là en fait que comment qui incroyable, en fait, de vivre une déshumanisation comme ça.
Ouais. Je pense que jusqu'au jour où, d'abord, j'ai été moi-même victime, il m'a fallu du temps pour réaliser tout ça, parce que les personnes que j'ai entendues au téléphone ou les personnes qui me disaient que je me suis échappé de tel ou tel endroit... je me disais, c'était pas si horrible que dans l'histoire d'il y a quelques siècles, parce que les gens étaient capturés, ou je sais pas comment dire, parce qu'ils étaient tout simplement noirs et qu'on les obligeait à travailler dans des champs. Et quand j'arrive dans une banlieue de Tripoli, il faut savoir que les gens sont capturés loin de là où ils habitent. Donc on leur amenait parfois à plus de 1000 kilomètres dans leur lieu où ils connaissent, où ils ont des amis. Donc moi j'ai été très loin de Saba, pas très loin de Tripoli. Je ne savais pas, pendant un an, je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas à quelle heure il était. Je ne savais pas... quelle ville où ça aurait pu être peut-être même... près d'une frontière, j'aurais jamais su. Et donc, j'ai commencé à comprendre à partir du moment où je voyais les gens. J'ai commencé à comprendre que c'était pas seulement pour la rançon ou pour une simple question d'identité ou de pourquoi vous êtes en Libye sans visa ou sans papier, que c'était vraiment l'esclavage. C'était le jour où je voyais des camions venir prendre des gens, les amener dans des chantiers où ils doivent travailler gratuitement. Soit c'est dans le bâtiment, soit c'est dans les récoltes d'olives ou tomates ou autre chose. Et que les femmes étaient aussi kidnappées, tout simplement parce que c'était des filles. Et que les jeunes soldats qui combattaient dans des milices avaient accès à ces filles-là. Par quel moyen, je ne sais pas s'ils le payaient ou ils le font comment. Donc, et moi, quand ils ont su que je parlais plusieurs langues et que je commençais à faire la traduction de ces personnes-là qui étaient avec moi, ils disaient clairement que, voilà, moi j'ai déjà payé 2-3 fois des rançons. Mais il y a des gens qui sont venus m'acheter. Donc, c'était devenu directement un commerce d'homme à homme. C'est-à-dire, quelqu'un est kidnappé et on lui demande de payer une rançon peut-être de 1000. Cette personne la paye parce qu'elle pense que oui, après avoir payé, elle est libérée. Après avoir payé, le plus souvent, il y a un autre qui arrive et qui l'achète peut-être à 500 ou à 300. Pour torturer, pour en tirer encore. Donc, il y a des gens qui ont épuisé leur famille, qui ont vendu leur terrain, qui ont vendu tous les bétails qu'ils ont. Et ils n'avaient plus rien. Tout ce qui leur restait, c'était parfois la colère et parfois de se jeter sur les bourreaux pour essayer de se battre et qui se font fusiller parfois. Et moi, je me disais, c'est la fin du monde parce que voir des milliers de personnes autour de moi qui n'avaient pas accès à l'eau, donc pas à la bonne nourriture, et qui étaient enfermés et qui attendaient juste à ce qu'on leur dise voilà, il faut aller travailler, ou il faut revenir, ou on leur donne un téléphone, ou il faut payer. Et il y avait des gens qui mouraient aussi, mais l'enterrement, c'était juste comme ça, c'était pas vraiment un enterrement, c'est juste il faut cacher le corps pour que ça n'empeste pas. Donc je me disais, c'est la fin du monde. Et j'ai réalisé que, bon, voilà, les gens ont vécu l'esclavage. J'ai déjà vu un film qui parle de ça. Mais le vivre, c'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé, que je n'ai jamais pensé dans ma tête. Parce que oui, ça date, ça fait des siècles. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien ? 2014, 15, 16. Et il y a l'esclavage dans un pays qui attrape des personnes. Et ces personnes-là étaient vendues et étaient achetées par d'autres personnes. Donc, et moi, je me disais, si je racontais ça à quelqu'un, mais personne ne va me croire. C'est incroyable de voir qu'une personne vient avec de l'argent pour acheter une autre personne. Donc, il faut le vivre pour le comprendre.
Et ça, c'est quand même ce qu'il faut... Enfin, tu t'insistes là-dessus. C'est, t'as un pays, une dictature, Kadhafi... qui tombe et en quelques semaines ou en quelques mois, ce pays devient ce que tu viens de raconter.
Ouais, je pense que Gaddafi, il a gouverné avec beaucoup de comment je peux dire, il était sévère.
Ah oui,
donc, il était très sévère.
C'est certain.
Et beaucoup de gens allaient en prison facilement pour des petits délits. Il n'y avait pas de garde à vue. Le plus souvent, c'est la prison, c'est la torture. Et ils avaient la colère contre lui. Il faut savoir qu'en Libye aussi, il y a plusieurs ethnies. Donc l'ethnie de Gaddafi, qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans, était en train de torturer ces autres ethnies-là. Donc quand ils ont eu l'opportunité de faire tomber Gaddafi, toutes les autres ethnies étaient d'accord. Donc quand ils l'ont fait tomber, maintenant... Le vrai problème, c'était qui va gouverner la Libye. D'abord, la guerre entre ces ethnies-là a fragilisé l'armée nationale. Et beaucoup de gens ont perdu leur travail. Mais ça ne justifie pas qu'il faut kidnapper les gens pour les torturer.
C'est ça ma question, si tu veux. C'est qu'effectivement, une guerre civile, en fait, il y en a malheureusement beaucoup. Toutes ne donnent pas lieu, si tu veux, voilà, à la restauration de l'esclavage. C'est vrai que c'est un côté assez... Enfin, effrayant, quoi, dans ton livre, hein, sur cette affaire-là. Alors, bon, mais après, tu effectivement, tu le racontes dans le livre, tu réussis à t'enfuir,
Et donc, effectivement, après, ça continue. C'est-à-dire que tu as traversé le désert, et maintenant, en fait, ton obsession, ça va être de traverser la Méditerranée pour te mettre en sûreté physiquement. Donc, il va falloir que tu préviens ta mère, là, du coup, effectivement, qui, elle, est restée à Saba et qui, du coup, n'a plus aucune nouvelle. Et donc, il y a cette traversée-là. Alors, il y a des passages qui sont bouleversants, parce que j'ai parlé tout à l'heure des personnages, effectivement, à qui tu donnes la parole. Ouais. Parce qu'il y a ces moments où, effectivement, c'est vrai aussi lorsque tu es réduit en esclavage, où vous discutez, où tu rencontres des gens que tu connaissais d'avant. Donc, il y a les anciens voisins, clients, et puis les mêmes devenus esclaves quelques mois ou quelques années après. Là, il y a effectivement des échanges aussi qui sont bouleversants, là, avant la traversée. On n'a pas le temps de les lire là ce soir, mais vraiment, c'est des passages aussi qui sont remarquables. Et ouais. Donc, il va y avoir cette traversée. Là, c'est pareil, j'ai envie de dire, cette traversée-là, alors, c'est une espèce de chronologie inversée, mais ce que tu racontes dans cette traversée, avec l'espèce d'angoisse au ventre de tout le monde en montant dans l'embarcation, puis le naufrage, c'est pareil, ça réactive immédiatement, je parlais tout à l'heure de la cale du négrier, mais on est dans quelque chose comme ça, en fait. Hein, c'est espèce, fin du monde, là encore, mais c'est une fin du monde qui n'en finit pas, en fait. Parce ouais. que t'as...
Ah, nous, quand je pense que il y avait des milliers de personnes qui étaient évadées et la destination, bon, chacun courait. Je disais même pour garder son titre d'homme vivant, pour rester en vie. Et donc la destination n'était pas importante. Seul partir était le but. Il faut s'éloigner le plus vite possible. Et quand on s'est retrouvé le plus loin possible, il fallait maintenant comprendre que rester en Libye, c'était impossible. Parce que sortir dans la journée, on était tout de suite dévoilé. On n'était pas de la même couleur de peau. Donc, partir dans la Méditerranée ne faisait pas beaucoup plus peur que rester en Libye. Parce que rester en Libye, c'est rester enfermé pendant plus d'une année dans un endroit où on est torturé, forcé à faire des travaux, ou violé pour les femmes. Donc, c'est... à cet endroit où on s'est regroupé pour se dire maintenant, bon, la solution c'est quoi? C'est de partir, prendre la Méditerranée et partir n'importe où, de l'autre côté, que ce soit, on ne savait pas, on va tomber, bon, le plus souvent c'est l'Italie, que ce soit, peu importe, hein, de l'autre côté de la Méditerranée. Et ces femmes-là que j'ai rencontrées, et elles m'ont raconté pourquoi elles se sont retrouvées, parce que moi, j'ai vu...
Pas de Zainab? Notamment.
Ouais, il y a Zainab, il y a Myriam, il y a d'autres qui étaient en cellule avec nous. Mais je me demandais pourquoi elles sont parties de chez elles. Non, elles n'ont pas toutes été soudanaises ou tchadiennes. Il y a eu aussi des femmes qui venaient de Côte d'Ivoire, du Nigeria. Donc, je me demandais pourquoi elles sont parties. Donc, il y a eu une conversation avec ces femmes-là. Et j'ai très vite compris que chacun était sûr que la Méditerranée était moins effrayante que la vie de la Libye actuelle. Bon, on a vu des naufragés, on a vu des corps, mais c'était la mer, c'était la noyade, c'était pas la torture, c'était pas des viols, c'était pas des bombes ou des maisons qui s'effondraient ou des gens qui se fusillaient. Et il fallait partir, et dans le bateau, il fallait prier pour rester en vie et se retrouver de l'autre côté, en Italie.
Et ça ne marche pas pour tout le monde.
Malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde, malgré que chacun veut rester en vie et que chacun a vécu vraiment l'enfer, et chez lui et en Libye surtout. Le départ, c'est dans la peur, avec beaucoup d'espoir. La peur de se noyer, mais l'espoir de rester en vie, de donner des nouvelles une fois en Italie ou une fois quelque part en Europe. Et le drame, c'est parfois, on est parti depuis des années, on n'a pas donné de nouvelles en Libye parce que, bon, quand on est kidnappé, on est coupé du monde entier, et quand on s'échappe, on est chez un passeur, on n'a pas le droit d'utiliser les téléphones. Et quand on est sur le bateau, tout ce qui nous reste, c'est traverser et donner des nouvelles. Et moi, j'ai parlé du cimetière des inconnus, parce que au fond de la Méditerranée, il y a des gens qui on n'a pas retrouvé leur identité. Il y a des corps, il y a des personnes qui ont sombré. Et que jusqu'à aujourd'hui, la famille est en train de se dire, peut-être qu'il est en vie. Donc c'est ça qui est terrible aussi. Les gens qui arrivent ici, ils arrivent traumatisés, ils arrivent avec beaucoup de problèmes. Et puis, au final, ils peuvent quand même donner de nouvelles et dire que, bon, voilà, qu'ils sont en vie. Le plus dur, c'est pour parfois une vieille dame qui a un seul fils, qui part et qui se dit, bon, je reviendrai un jour, mais qui ne donne plus jamais de nouvelles. C'est horrible.
On va devoir malheureusement s'arrêter parce qu'on arrive au terme de cette émission. On aurait envie que, voilà, que de t'écouter encore longtemps et raconter. Et il y a encore beaucoup d'autres choses dans le livre, puisqu'après tu racontes aussi ton arrivée en France. On a commencé sur ce poème là que tu avais écrit à du maman. Tu lui donnes des nouvelles?
Oui, bon, bien sûr.
Voilà. on te remercie beaucoup pour ta présence ce soir. On rappelle le titre de ton livre, Mon nom est Mohamed. Mohamed Nourwana, aux éditions de l'Institut du Tout Monde. Livre qu'on recommande au-delà de tout ce qui, je sais pas, de tout ce qu'on peut dire, voilà, à nos auditeurs. On vous le conseille. L'émission, elle est réécoutable sur le podcast de l'émission, jeudi noir, gurdulu.org. Et on se quitte avec Dua Saleh, Survival, dont la famille a fui le Soudan dans les années 90, quand elle avait 5 ans, vers l'Érythrée, puis aux USA. À la prochaine.
Bonsoir, c'est Gabriel, Maurice, Claude et les autres. Alors, j'imagine que vous avez reconnu ma voix. C'est la même voix que Jazz Vib et c'est la même équipe avec Laurent à la technique que nous saluons. Alors, Gabriel, Maurice, Claude et les autres est une nouvelle émission que j'avais en tête depuis un petit moment, mais je n'osais pas franchir le cap pour diverses raisons. Et en fait, alors Gabriel, Maurice, Claude et les autres, ou GMC+, en abréviation, vous avez l'information sur le site de la radio. J'en profite pour vous dire que vous êtes évidemment sur Radio Libertaire, que vous devez télécharger le numéro de le bon de souscription pour nous soutenir, que le numéro du studio c'est 01 43 71 89 40. Vous êtes sur 4... Sur, alors oui, l'information importante, c'est que nous sommes passés en DAB+, si vous êtes équipé, que également le podcast est écoutable tout de suite après l'émission ou téléchargeable pendant un an. Et donc, vous êtes sur...